Merci.
Je vais revenir peut-être plus concrètement comment Lola a pu analyser, se décline, ou en tout cas on s'en est saisi, nous, dans l'association. Peut-être en commençant ce qu'elle évoquait, mais sur le choix de la cible. C'est-à-dire qu'on a choisi, chez Enquête, de s'adresser à une cible particulière qui est les enfants de fin de premier degré, les 8-11 ans globalement. En se disant qu'il fallait bien commencer à un endroit, qu'on ne s'adressait pas à des petits, à des grands du primaire ou à des ados de la même façon, que, comme elle le soulignait, c'est un âge où on pose beaucoup de questions, ces sujets les intéressent, qu'ils ont peu d'espace où ils peuvent en parler, qu'ils ont une capacité à conceptualiser. Et quand vous parlez quand même de religion, vous parlez souvent de choses qu'ils ne voient pas, donc ils sont en mesure de vous suivre dans l'abstraction si vous rentrez par des choses où on fait lien aussi avec le concret ou ceux qu'ils peuvent voir au quotidien. Et vous n'êtes pas dans les contingences adolescentes, qui sont intéressantes hein, aussi pour traiter ces sujets, parce que c'est des sujets qui sont sensibles, mais où vous êtes souvent dans la provoque, dans la construction identitaire, qui se fait souvent contre, sous le regard des pères, donc avec des choses particulières. Là, on est à un âge où on peut les amener à se questionner assez loin, ils peuvent vous emmener assez loin, et où vous pouvez aller dans l'abstraction, ce qui est plus difficile ou en tout cas peut se faire avec les plus petits mais avec des outils particuliers. Donc on a commencé avec cette tranche d'âge là qui sont les CM1, CM2 de la fin des deux dernières années de l'école élémentaire. On a affiné nos objectifs au fur et à mesure de notre activité, alors notamment avec le travail de Lola, mais on avait commencé en fait avec quelque chose qui était très proche des premiers rapports qui avaient été présenté dans le cadre de l'éducation nationale, un rapport en 89 d'un recteur Joutard, qui revenait sur le fait que les élèves avaient de moins en moins de connaissances sur ces sujets. C'était problématique pour rentrer dans les différentes disciplines. Et le rapport d'Aubré, dont vous avez dû entendre parler, là, qui s'adressait aussi aux grands, mais qui revenait surtout, majoritairement pour le rapport Joutard et aussi dans le rapport Debré, sur ces questions de connaissances, c'est-à-dire donner des connaissances aux enfants pour qu'ils comprennent le monde dans lequel ils sont. Alors, je sais pas, de façon très pratique, pourquoi est-ce qu'on est en 2019 pourquoi la semaine fait 7 jours? Pourquoi quand vous rentrez dans une salle Renaissance d'un musée, vous avez toujours un monsieur comme ça avec un truc au-dessus de la tête? Pourquoi est-ce que mon copain, il mange pas de porc à la cantine? Je pourrais multiplier les exemples. Donc, des outils de compréhension du monde. Qui était finalement le premier objectif, en tout cas celui qu'on mettait en avant au départ. Et petit à petit, en avançant, un objectif qui est resté, mais qui est devenu secondaire. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité à apporter des connaissances aux enfants, mais finalement, est-ce qu'il y en aurait plus à apporter des connaissances sur ces sujets que leur donner des clés en histoire, en sciences, en biologie, en maths, en art, enfin, qui a un intérêt, mais qui est finalement pas nécessairement prioritaire. Et finalement, trois autres objectifs, à notre sens, aujourd'hui, un premier objectif, donc pour de cet enseignement de ces faits religieux, un objectif d'apaisement. C'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, quand on entend parler du religieux, on en entend parler essentiellement par les crises et les extrêmes. Bon, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, je pense que vous penserez tous à... dans les médias comme dans la bouche des politiques, c'est par ce biais-là qu'on rentre souvent. Et finalement, ce n'est pas le meilleur moyen de pouvoir rassurer, apaiser, ni de pouvoir proposer des espaces aux enfants où ils puissent en parler calmement, hors des temps de crise, déjà, et puis où ils puissent aussi, potentiellement, pour certains d'entre eux, pouvoir en parler en étant fiers. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas soit montrés du doigt, soit qu'on leur refuse, on leur dise « t'as pas le droit d'en parler », donc un endroit où ils puissent en parler, et rien que créer ces espaces où ils peuvent en parler dans un cadre qui est construit, qui est le cadre de l'école, en tant que tel, ça a une vertu apaisante qui est visible. Enfin, je me souviens, moi, de la classe où j'avais testé le jeu quand on l'a construit l'arbre à défi, et qui était une classe de CE2 dans le 14e, sur les boulevards extérieurs, où quand je suis venue présenter le premier jour, on dit on va aborder les questions de religion par le champ de la connaissance. Une espèce de truc dans la classe où vous sentez une forme d'énergie, mais on se dit, il y a quelque chose, c'est une forme d'hostilité qu'on sent dans l'air. Et au fur et à mesure des séances, il y avait toujours cette énergie-là, mais elle n'était pas contre ce qu'on venait aborder, elle était pour. C'est-à-dire qu'ils arrivaient tous avec des trucs à raconter, des anecdotes, des objets. Donc, premier objectif, un objectif d'apaisement. Deuxièmement, un objectif d'accompagner les enfants pour les aider à développer un rapport apaisé à ces sujets-là. Et ça veut dire trois choses à notre sens que Lola évoquait, qui est celui, premièrement, de les amener à se questionner sur la différence entre savoir et croire. Ça ne veut pas dire les opposer, dire que c'est l'un contre l'autre, ça ne veut pas dire les hiérarchiser, il y en a un qui est votre autre, c'est bien comprendre que ça ne répond pas aux mêmes questions, que ça ne répond pas aux mêmes enjeux. Comprendre comment le savoir se construit, c'est quoi le savoir, qu'est-ce qu'il est, comment il se décline, c'est quoi les protocoles, entre guillemets, est-ce que le savoir est définitif, comment il avance. Et que le croire ne se construit pas de la même façon. Le croire n'a pas vocation à être démontré. Il n'a pas besoin d'être démontré. On peut avoir des raisons de croire, avoir des bonnes raisons, mais en revanche, ça ne relève pas de la démonstration. Et donc, il n'y a pas à les opposer, il n'y a pas une question de vrai ou de faux, il y a juste une question de différencier. Ça les met en colère, souvent, pour certains, parce qu'ils ont l'impression, quand on différencie ça, qu'on leur demande d'apporter des preuves de ce qu'ils croient. Pas ça, c'est juste comprendre que tu peux... C'est légitime pour toi, c'est... peut être important pour toi, tu peux avoir des très bonnes raisons de croire, mais en fait, tu pourras jamais convaincre ton copain, même si c'est très important pour toi. Le rapport réfléchi au religieux, au-delà de savoir et croire, il y a une deuxième chose, c'est de les amener à toucher du doigt le fait qu'il existe une pluralité de convictions. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Dans les gens qui croient, il y a des gens qui croient à un dieu, il y a d'autres qui croient en plusieurs dieux. Dans ceux qui ne croient pas, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont agnostiques, il y a aussi des gens qui s'en fichent. Enfin, toucher du doigt cette pluralité-là. Et même aller plus loin, c'est de toucher du toit la diversité interne à chacune d'entre elles. C'est-à-dire les amener à comprendre que parler du juif, parler du chrétien, parler du musulman, parler de l'athée, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens d'abord parce que déjà dans chacune des convictions, vous avez des courants institutionnels qui existent. Mais aussi que finalement, il y a des façons très diverses et individuelles de se relier à un texte, à une pratique, à une spiritualité. Qui vont être différentes selon les pays, selon les familles, selon les individus. Et si vous tirez le truc, même on va plus loin, c'est-à-dire que même au sein d'un individu, il ne sera peut-être pas le même à 10, 20, 50 ou 80 ans. Et donc de vraiment mettre en avant cette question de la diversité, ce qui veut dire derrière de comprendre que expliquer à son copain qu'il n'est pas un bon parce qu'il ne fait pas je ne sais pas quoi, ça peut être questionnable. Que m'imposer à moi quelque chose en disant c'est comme ça que tu dois faire, ça peut être questionnable aussi. Et puis, par là, donc, travailler sur la question, cette question de la normativité, de la diversité. Et puis, ça veut dire aussi, j'ajouterais peut-être une quelque chose sur cette question de la diversité, c'est de. On ne va pas amener les enfants nécessairement à respecter la conviction de l'autre. En revanche, les amener à respecter la personne porteur d'une conviction différente, qui n'est pas la même chose. On ne demande pas d'adhérer à la conviction de ton copain. En revanche, on te demande de respecter le fait qu'il est porteur d'une conviction avec laquelle tu n'es peut-être pas d'accord, mais respecter cette personne-là. Et troisième objectif de cet enseignement des faits religieux, c'est celui de cette éducation à la laïcité. C'est-à-dire que de la même façon qu'on se dit, on va peut-être parler des religions, pas uniquement en période de crise ou par le biais des crises ou des extrêmes, parler de la laïcité au-delà des attaques, débats, en gros négatifs, en termes de crise, en termes de « elle est attaquée, il faut la défendre », peut-être commencer par leur dire ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça a de positif. Si je le fais de façon un peu caricaturale, sortir de l'idée que, en fait, la laïcité, c'est ce qui me dit qu'à l'école, je dois venir sans symbole religieux. Il y a la loi de 2004, mais on va peut-être faire deux pas de côté pour t'expliquer ce que c'est et ce que ça te garantit d'abord. Donc, de comprendre ce que ça te garantit à titre individuel. Donc revenir sur la question de la liberté de conscience, tu as le droit de croire ou pas croire, tu as le droit de changer de conviction si tu le souhaites. Liberté de culte, tu as le droit de pratiquer ton culte, dans la limite des règles existantes, mais tu as le droit de le faire. Et en fait, quand il y a des trucs qui, même pour les enfants comme pour les adultes, quand il y a des choses qui fonctionnent, on finit par oublier l'existence de ces droits. Donc faire aussi le parallèle en disant, non, en France, il y a 300 ans, c'était pas le cas, si t'étais pas de la religion du roi, c'était pas hyper sympa. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui où tu peux pas changer de conviction. Il y a des pays dans le monde où tu ne peux pas te dire athée. Donc de revenir sur ce que ça te garantit comme droit, et donc de les amener à en percevoir l'intérêt pour eux. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Et concrètement. Et puis aussi de comprendre en quoi ça a un intérêt collectif. C'est-à-dire que si on est passé par cette histoire de croire et savoir, donc si vous reprenez les étapes, c'est je peux être porteur d'une conviction. qui est peut-être très important pour moi parce qu'elle me donne à comprendre le monde, elle répond à des grandes questions, elle me rassure, elle me fait appartenir à quelque chose. Mais je ne pourrais jamais démontrer que j'ai raison ou que c'est vrai. Et donc potentiellement, avec mon copain, on ne sera peut-être jamais d'accord sur ce truc-là très important pour nous deux. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'on puisse s'en parler déjà, qu'on puisse être intéressé par ce que l'autre a à dire, qu'on puisse être potentiellement en désaccord, et puis après qu'on fasse du commun, c'est-à-dire qu'on puisse trouver du commun au-delà de ce désaccord fondamental. Et donc la laïcité perçue comme un cadre qui permet de faire du commun aussi. Concrètement, donc, comment est-ce qu'on met ces objectifs en œuvre auprès des enfants? En fait, on a commencé il y a 9 ans maintenant par animer des ateliers. Là, en fait, où on pouvait commencer à entrer. Structure, moi, je n'ai aucune légitimité, comme je vous disais, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas spécialiste de ces religions, des religions ou autres. Autant vous dire que la première fois, quand j'ai voulu aller animer des ateliers, il m'a fallu appeler pas mal de structures pour qu'on m'ouvre les portes. Ce que je trouve légitime, hein. Vous êtes appelé par quelqu'un qui vous dit « Je viens de commencer, je ne suis pas spécialiste, mais j'aimerais animer des ateliers sur les religions dans votre structure. » Vous dites « Bah écoutez, oui, on va y réfléchir. » Donc j'en ai appelé beaucoup, beaucoup. Il y a un centre social qui a fini par m'ouvrir ses portes, donc on a commencé à travailler. On rentre dans la pratique par trois biais, par les questions qui se posent au quotidien. C'est quelque chose encore de dire, on va aborder comment on s'adresse à des enfants, on va partir de les questions qui se posent dans leur vie de tous les jours. On ne va pas leur faire un cours sur une religion très éloignée ou donner un cours d'histoire. On va commencer par rentrer par un truc qui les accroche. Deuxièmement, on rentre par le jeu. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le jeu? Pour deux raisons. La première, c'était se dire, on est déjà sur un sujet un peu lourd et complexe, on va peut-être essayer de le rendre un peu plus léger. En tout cas, le jouer, c'est... Voilà. Et aussi, ça sert notre troisième porte d'entrée en termes de pédagogie, qui est une pédagogie du questionnement. C'est-à-dire que si vous voulez faire en sorte que les enfants... Vous avez vu les objectifs un peu ambitieux qu'on se donne. Si vous voulez faire en sorte qu'ils arrivent à quelque chose, il va falloir prendre le temps et il va falloir les amener à se questionner. Et donc, quand on joue, on parle beaucoup parce qu'on veut gagner, qu'on se dit des choses. Et donc là, tout l'enjeu de la pédagogie, c'est de poser des questions. C'est d'amener à poser des questions aux enfants sur les mots qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils mettent derrière, les interprétations qu'ils donnent. Alors, on va avoir des interprétations naïves. Je peux vous donner un exemple. Si, est-ce que vous savez pourquoi les bouddhistes, ils n'ont plus de cheveux? Parce qu'ils ont tellement boudé. On en a des listes et des listes de perles. Mais vous avez des interprétations naïves, vous en avez des à côté de la plaque où les gamins ils ont visiblement pas compris, et vous en avez des parfois extrêmement choquantes. Donc ça veut dire de pouvoir laisser cette expression-là se faire dans un cadre qui est préparé. Et pas dire à l'enfant qu'il va vous sortir un truc vraiment horrible, parce que ça nous est arrivé, oh là là, non, t'as pas le droit de dire ça, hein, ça c'est vraiment pas gentil, non, tu te tais. Si on prépare la chose, on va la laisser s'exprimer, on va la questionner, on va la travailler sur le long terme. Parce que si vous lui dites de ne pas le dire, il va l'arrêter, hein, il l'a compris, mais ça ne l'empêchera pas de continuer ni dans la cour ni dans la rue. Donc de pouvoir travailler ces choses sur le long terme. Et travailler par le jeu, vous pouvez questionner, et puis les questionner pour les faire passer du nouveau jeu, par exemple. Parce que je vous donne des questions de la diversité. Nous, on croit que. C'est qui, nous? À quoi ça renvoie? Est-ce que nous, c'est tout le monde? Est-ce que... Et donc, de ce petit point où on les fait dire d'où ils parlent, en fait. Et donc, on a commencé à animer des ateliers par le jeu. Donc, c'était dans des centres sociaux. Et au début, on s'est dit que ça va être le moyen prioritaire pour déployer notre action. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, c'était avec Vincent Payon, on était passé à la semaine de 4 jours et demi. Et donc, avec des activités dans toutes les villes de France sur le périscolaire. Donc, on s'est dit, on a un boulevard pour commencer. C'était plus compliqué que ce qu'on pensait. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte aussi que c'était intéressant de travailler avec les enfants en temps périscolaire, comme ça, sur la durée. Mais quand vous avez des ateliers 1h30 par semaine, donc que vous recrutez des gens, parce qu'on ne peut pas être partout, que vous formez, que vous accompagnez pour animer ces ateliers-là, autant vous dire que vous avez un turnover fou, parce que les gens qui viennent travailler pour 1h30 par semaine, c'est soit un engagement, soit des étudiants, et donc que se déployer par ce biais-là, c'était... Ça aurait demandé une énergie folle avec un impact à un moment où on se dit que ça risque d'être compliqué. Donc on garde des ateliers, toujours. On en a dans 16 écoles de la ville de Paris, qui est une des villes des 20% qui sont restées à 4 jours et demi. On ne sait pas pour combien de temps, parce que prochaine mandature, peut-être qu'ils vont revenir là-dessus. On en a encore dans certains centres sociaux. Mais on a doucement fait évoluer notre activité vers l'idée de se dire, si on veut que les choses changent vraiment de façon pérenne et qu'on fasse évoluer les choses, c'est pas en faisant nous, c'est en faisant en sorte que les acteurs éducatifs, et quand je dis acteurs éducatifs, c'est enseignants, animateurs, chefs scouts, animateurs sportifs, hein, tous ceux qui ont une relation éducative aux enfants, se saisissent de ces questions. Et donc, il faut qu'on puisse les outiller et les former pour qu'ils puissent le faire avec des outils qui fassent sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner à un animateur périscolaire le jeu qui va être utilisé en classe en cohérence avec les programmes, parce que ça ne fera pas sens. Donc, essayez de déployer des outils adaptés en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Et donc, on déploie des outils. On a des outils pour les enseignants. On a fait des outils pour des ateliers en périscolaire. Et puis, alors, sur les tranches d'âge un peu plus élevées, moi j'ai freiné des cas de fer en me disant on va pas chez les ados, on a un autre truc, c'est les petits, il faut qu'on continue chez les petits, on a un message à porter. Puis les structures avec lesquelles on travaillait qui poussaient, donc on s'en a fini par se dire bon, faut qu'on y aille quand même. Et donc travailler, c'est Lola qui a travaillé dessus, ou on travaille toujours comme ça, c'était de se dire ok, bon, on va y aller, mais pour pouvoir créer un outil et former, il faut qu'on sache comment ça se passe. Comment ça peut se passer. Et donc, notamment la PJJ, qui était venue, protection judiciaire de la jeunesse, qui était venue nous chercher pour qu'on fasse de la formation pour les éducateurs, on dit ok, mais on ne va pas aller parler à vos éducateurs si on ne sait pas comment ils travaillent, parce que sinon ça va tomber, ça sera un peu hors sol, quoi. Donc, on est allé animer des ateliers dans les différentes structures de la PJJ pour ensuite créer un outil pour former des éducateurs. Donc, des outils pour les ados aussi. On fait de la formation. Et là, avec des objectifs où il y a. Vous avez un premier niveau qui est, enfin plutôt, je commence en bas, c'est plutôt en haut, mais c'est plutôt en bas, c'est donner envie. C'est-à-dire donner envie de le faire, après rassurer, et après leur donner les moyens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas donné envie, vous aurez beau leur expliquer comment il faut faire, si vous ne les avez pas rassurés, ça ne marche pas non plus. Donc. Et après, de leur donner les moyens de le faire, et ça veut dire se reposer des questions sur les objectifs, il faut que mes objectifs soient clairement identifiés dans le cadre de ma structure. Les questions de positionnement, ce que Lola évoquait dans sa thèse, c'est-à-dire comment j'en parle et d'où j'en parle. La question de la neutralité, elle est importante, pas uniquement en termes d'obligation légale. La question de cette pédagogie, comment je relance, comment je questionne, comment je vais jouer aussi. Et puis après, le fait de prendre en main des outils. Et formation, on intervient par exemple pour les enseignants aussi bien en formation initiale, dans les fameuses ESP. Il y en a une par académie, on est dans 7 cette année. Alors elles vont encore changer de nom et de format à la rentrée prochaine, mais la loi est en cours d'étude. Elle est passée au Sénat, maintenant elle va revenir à l'Assemblée nationale, donc on verra comment ça se passe. Et puis après, en formation continue, avec donc des enseignants en poste dans les classes, où on va revenir sur ces objectifs et puis les accompagner en classe pour prendre en main les outils. Et après, en termes de formation et de partenaires, on travaille donc avec des villes, parce que c'est les villes qui gèrent le périscolaire pour les enfants, avec certains centres sociaux, donc des structures qui accueillent les enfants après l'école et qui gèrent notamment, alors je ne sais pas si vous connaissez, balance des acronymes, là. Les CLAS, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, donc c'est un financement de la CAF pour pouvoir accompagner les enfants sur du soutien scolaire, enfin l'aide aux devoirs et puis après de l'ouverture culturelle. On va travailler avec le foot aussi, la Fédération française de foot, alors plutôt dans les clubs pro aujourd'hui, avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, donc des acteurs divers, différents endroits qu'on va accompagner pour la prise en main de ces outils. Et puis, quatrième branche de notre activité, c'est de se dire aussi, si on veut pouvoir faire avancer les choses, il y a une question de légitimité quand même à un moment. Il y a la légitimité par le faire, mais il y a quand même aussi une légitimité de l'analyse. Et donc, l'importance de la thèse de Lola pour analyser ce qu'on fait, donc qui nous a permis, nous, de creuser et d'améliorer nos outils, et vers l'extérieur, de montrer aussi qu'on réfléchissait, qu'on se posait des questions et qu'on avait un lien avec l'université. Et là, on poursuit le travail avec le lien avec la recherche, où on a un gros projet d'évaluation en partenariat avec l'OCDE, en randomisation. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que je vous explique ?
Oui.
Pour mesurer l'impact, en fait, vous avez plusieurs options. Et la randomisation, c'est un choix où vous allez mesurer dans un groupe test partant. Un tirage au sort de gens qui vont avoir, enfin groupe témoin et groupe test, ce à qui on va faire, ce qui on va pas faire. Et vous allez mesurer le changement dans ces deux groupes avant et après. Donc là, en l'occurrence, ça sera dans trois villes, qui est dans les Yvelines, qui sont Trappes, Les Mureaux et Sartrouville. On va avoir 50 classes. Dans ces 50, on va tirer 25 au sort qui vont faire au début de l'année. Et on va faire passer des questionnaires avant et à la fin de l'action pour voir s'il y a une différence entre les deux groupes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette histoire de randomisation aussi? C'est que la question du déploiement se pose. Donc ce que j'évoquais, c'est le fait qu'on avait laissé de côté le fait d'animer des ateliers en propre sur tout le territoire, parce que c'était en termes de moyens extrêmement consommateurs de moyens et de ressources, et donc avec un impact qui était sans doute pas à la hauteur. Donc de se dire, il faut qu'on fasse changer les choses de façon pérenne. Et il y a deux biais. Il y a le biais sur un territoire, de se dire, on va essayer de mobiliser tous les acteurs éducatifs, donc l'école, la mairie et les autres acteurs, ce qu'on fait à Sartrouville par exemple aujourd'hui. On essaye depuis septembre dernier en disant, on se donne 2 ans, en 2 ans, on se dit en 2 ans, on aura touché entre 75 et 100% de la tranche d'âge qu'on vise, en mobilisant tous ces acteurs et donc sur toute la continuité. C'est pas gagné, parce que ça prend du temps, parce que tous les acteurs sont pas partants nécessairement, mais en tout cas en disant, voilà, on peut essayer de montrer comment un territoire se saisit de cette question-là. Et après, vous avez la question du politique, c'est-à-dire qu'on a une chance, entre guillemets, que l'enseignement des faits religieux, il est dans les programmes. Aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin de faire une loi pour le faire changer. En revanche, il faut que ça soit pris en compte, parce que c'est dans les programmes aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessairement appliqué, les chiffres que vous donnez Lola. Et à notre sens, pour que ça soit fait, il y a un moment ou un autre, il faut un discours politique. C'est-à-dire un discours politique qui dise, c'est dans les programmes, il faut que ça soit décliné dans toutes les classes. Et à notre sens, peut-être même une solution politique par cet enseignement-là, je vais m'expliquer, c'est que autant on sait qu'il y a des débats sur la laïcité, sur quelle place pour le religieux en France, qui sont assez tendus, qui se tendent encore plus à certaines périodes, autant il y a peut-être là un moyen politique de se dire, finalement, il y a des débats légitimes sur cette question du religieux, quelle place pour le religieux en France, est-ce que la laïcité doit évoluer ou non. En revanche, on peut peut-être mettre d'accord différents acteurs sur le fait de qu'est-ce qu'on fait changer chez des enfants quand on met en œuvre un enseignement des faits religieux réellement laïque. Je reviens sur mes objectifs tout à l'heure, globalement arriver à démontrer que les enfants, on les apaise, qu'ils ont moins de difficultés dans la relation à l'autre, à la conviction de l'autre, que la laïcité, ils ont compris que c'était quand même plutôt chouette, vous arrivez à réconcilier finalement des acteurs différents. Donc là, cette étude-là, elle a aussi une vocation très instrumentale de notre part, de dire, on vous montre, on vous donne les moyens, en tout cas aux politiques, de pouvoir vous saisir de ça pour montrer qu'il y a un enjeu de citoyenneté fort là, et que cet enseignement-là, il est particulièrement opérant pour éduquer la laïcité. Peut-être juste parler aussi des difficultés qu'on rencontre, parce que je vous dis que là, tout est parfait, que c'est très chouette, qu'on fait du super boulot, mais ça fait quand même 9 ans. On reste une petite structure, hein, on est 4, on fait beaucoup de choses. On touche en direct près de 1000 enfants par an, on forme près de 2000 personnes, mais il y a quand même des choses, des blocages. Je pense qu'il y en a un sur la question, en tout cas plutôt en termes théoriques, sur la question du sujet encore, de comment aborder ce sujet-là qui est quand même un peu particulier. C'est quoi la juste distance pour enseigner les faits religieux? Et ce qu'on défend nous, c'est de dire, il faut en parler dans le champ des connaissances, pour autant il faut pouvoir rentrer dans ce que les croyants disent. Pas si je suis très claire. C'est-à-dire dans un discours interne, tout en y mettant ce que Lola appelait des modalisateurs, c'est-à-dire pour les musulmans, hein, du conditionnel, mais de pouvoir rentrer dans ce qui fait que ça a une matière, une épaisseur, une importance pour les gens, parce que sinon vous êtes trop loin. C'est-à-dire que cette juste distance qui est complexe à trouver, si vous êtes vraiment trop loin, vous en faites un objet froid qu'on ne comprend pas. Si vous êtes trop près, vous êtes dans une forme de prosélytisme. Donc trouver cette distance, on peut en parler dans le champ de la connaissance, tout en donnant à comprendre ce qui fait que c'est important pour certains. Qui est une distance qui est complexe et qui n'est pas toujours très simple à faire passer en termes de formation aussi aux éducateurs. Après, on a des oppositions institutionnelles, je dirais. Alors, pour certains, on est soit des crypto-cathos, soit des islamo-gauchistes. Comme vous voulez, donc on veut réhabiliter le religieux, ou on a un agenda caché, ou...
Personne ne vous voit comme des laïcistes,
laïcards. Des laïcards, non, on n'est pas...
Anti-religieux.
Certains, si aussi, je vais arriver pas laïcard, mais relativiste. T'as un côté où t'es, globalement, tu laisses trop de place aux religieux, tu le réhabilites. Et je pense qu'on a une forte opposition au sein de l'éducation nationale à certains endroits sur le fait que un certain nombre d'acteurs ont une grande confiance dans l'éducation comme un outil d'émancipation de l'homme, enfin une vision du progrès de l'homme et la capacité à l'homme de s'améliorer avec la confiance dans l'éducation, une perception du religieux comme un outil contraire à l'émancipation humaine. Et donc du coup, le fait d'en parler, même dans le champ de la connaissance, et posément et avec respect, est une forme de réhabilitation de ce truc qui globalement doit disparaître. Donc là, il y a des endroits où c'est très fort au sein de l'éducation nationale. Et de l'autre côté, vous avez à certains endroits, alors je pense plutôt à l'enseignement confessionnel, des oppositions qui vont être de l'ordre du relativisme. C'est-à-dire que vous en parlez, mais globalement, vous mettez tout au même niveau. Et nous, ce qu'on essaye de faire passer, c'est quand même une vision particulière de l'homme, avec une anthropologie particulière, dans un environnement culturel particulier. Et globalement, il y en a une à mettre au-dessus des autres de conviction. Donc le fait que vous en parliez de tout avec respect est problématique. Donc ça, il y a ces deux choses auxquelles il faut qu'on réponde des deux côtés. On a peu d'opposition des parents, contrairement à ce que beaucoup pensent. Enfin, moi, c'était ma principale peur quand j'ai créé l'enquête en disant on va avoir des levées de boucliers, comment on va faire, etc. En 9 ans, on a eu 3 problèmes avec des parents, ce qui est quand même marginal. Et en fait, globalement, des parents qu'on arrive à convaincre. Si je prends l'exemple qui était le plus difficile récemment, et en fait, on s'en est sorti, c'était à Trappes. On commence la première année, l'inspectrice de l'éducation nationale nous fait travailler, dit « je veux former forcer aucun enseignant, donc je vous laisse présenter, on verra les enseignants qui sont partants ». Donc 3 enseignants volontaires, on met en place le truc. Dans 2 écoles, ça se passe très bien, et dans une école, l'inspection m'appelle en panique en disant « les parents sont pleins, ils demandent une réunion », donc réunion à Trappes le lendemain avec les parents. Où il y avait 3 parents, il y en avait une qui était une mère représentante de parents d'élèves qui était vraiment là pour comprendre en fait. Elle n'avait pas compris ce que c'était, on ne l'avait pas prévenue, donc, et à qui on a expliqué, ça s'est bien passé. Il y en avait une deuxième qui était globalement là pour. Je pense qu'il serait saisi de n'importe quel sujet pour venir se plaindre et qu'on l'écoute, donc on l'a écouté. Et il y avait une troisième personne, un père, parent d'élève, qui avait un discours que je trouvais intéressant qui n'était pas présenté aussi clairement que ça, mais qui disait ça en l'espèce, en disant vous, école, vous nous demandez de laisser la religion à l'école, à la maison, pardon. Donc on dit à nos enfants de laisser la religion à la maison, de ne pas l'amener. Et vous, venez vous-même rompre le contrat auquel vous nous avez demandé d'adhérer. Donc il y a un truc qui n'est pas logique. On a essayé de lui expliquer que c'était pas la même chose, qu'il y avait question du confessionnel, que c'était à la maison, que la question de l'école était champ des connaissances. Il y avait quand même un truc où il n'était pas hyper confiant, donc l'inspectrice lui a proposé de venir assister à une séance. Il est venu assister et il a validé derrière. Sachant qu'il y avait quand même des propos un peu menaçants dans son truc en disant « Nous, on pense que, j'en ai reparlé, nous, on dit... » Il y avait un truc qui était... Et c'est passé et ça continue à Trappes aujourd'hui dans toutes les écoles. Donc, ces questions d'opposition de parents, on peut les dépasser sous réserve qu'on leur dise ce qu'on fait et surtout ce qu'on fait pas. On va pas convertir vos enfants, ni à une religion, ni à l'athéisme. On ne va pas chercher à les faire changer d'avis, on ne va pas contre une éducation parentale. Donc on va apporter des connaissances. Alors certes, on va tenir un certain nombre de choses. L'école a abordé en termes de position, de respect de l'individu, de civisme, d'égalité. Tiens, c'est sa position, mais globalement, on n'est pas là pour faire changer d'avis. Donc les parents, ce n'est pas un problème, alors que c'est souvent la principale peur des enseignants. Les enseignants, ils ont 2 trouilles. Qu'est-ce que je fais si ma classe dérape ? C'est-à-dire qu'il y a une question qui me pose et que j'arrive pas à la gérer et ça part en cacahuète. Et qu'est-ce que je fais si les parents débarquent ? Surtout dans le primaire où les parents sont très présents. C'est plus le cas au collège, les parents sont beaucoup moins présents. Primaire, ils sont là. Et après, troisième type de difficulté, elle est plus statutaire, je dirais. À savoir qu'on est donc une association sans but lucratif, d'intérêt général. Néanmoins, l'éducation nationale a du mal à travailler avec des acteurs autres. À sa décharge, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent travailler avec l'école, un peu partout. Mais quand même, l'idée qu'il y ait une structure extérieure qui vienne proposer des choses, c'est complexe. Quand elle est de droit privé aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc où elle est privée. pas public. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda financier ou ce que je vous disais sur les agendas cachés Et donc, tout le travail, c'est d'arriver... Et en fait, aussi peut-être une chose, c'est que pour autant, cette peur-là, on ne la retrouve pas au niveau des individus, au niveau des acteurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec des enseignants, on n'a pas cette opposition, cette peur-là. Donc, c'est arriver à montrer patte blanche. Un travail de long terme pour montrer qu'on fait du travail de qualité, qu'on respecte l'école, qu'on prend en compte ses contraintes et qu'on n'a pas d'agenda caché. Voilà, je voulais peut-être vous montrer un des outils qu'on a fait qui est terminé par là. Je vais vous montrer, en fait, c'est l'arbre à défi qui a été créé au départ... Donc, en 2014, il a été amélioré suite à la thèse de Lola, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs problématiques. Donc, on a fait un guide pédagogique que je vais vous faire passer pour accompagner, revenir sur les objectifs, les liens avec les programmes, les questions de positionnement, puis proposer des séances clés en main, de dérouler de séances. Et puis, on a aussi complété, pour revenir sur les angoisses des enseignants, leur montrer comment ça se passe en classe. On a fait des captations de séances en classe, un peu sous un mode tutoriel, je fais passer ça déjà, Pam. Et je vais vous montrer la fin. Alors, pas tout le tutoriel parce qu'il fait 15 minutes, mais peut-être la fin qui vous montre aussi comment ça concrètement.
Oui, c'est une bonne idée. Ouais. 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 Ouais.